On va peut-être conclure là-dessus puis aller vers la salle. S'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires, vous avez mis en place des initiatives dans votre organisation qui est proche de ce qui a été évoqué, qui est différente.
Oui, c'était pour revenir sur les leviers tantôt. Une idée qui me vient tout le temps dans ce temps-là, puis j'en ai parlé dans une rencontre avec le recteur à l'UQAM. Là, il y a la question du recrutement aussi. Moi, j'incite les universités, les cégeps, et j'incitais M. Palage aussi, le recteur de l'UQAM. Servez-vous de nous, servez-vous de la politique pour recruter des gens? Présentez-vous comme un milieu bienveillant? Puis je me dis que si... En fait, en le présentant, ils n'auront pas le choix d'être un milieu bienveillant. En fait, c'est ça. J'incite l'UQAM à l'UQAM cherche à avoir des nouveaux étudiants. Il y a un problème de recrutement de nouveaux étudiants. Donc, présentez votre institution comme un milieu qui favorise la conciliation. Puis bon, en le faisant, ben, on espère que ça va donner des résultats ensuite.
Tout à fait. D'ailleurs,
c'était Annie, notre coordonnatrice du CSPE,
c'est vrai, qui fait
un travail formidable.
C'est bien que tu l'identifies. Vous pourriez justement vous identifier votre nom et tout. Et je trouve intéressant ce que tu dis parce que, de fait, les mesures de conciliation, c'est un des meilleurs facteurs, un des meilleurs éléments de marketing. On parle beaucoup, voilà, de l'expérience employée, ceci, cela, plein de terminologies. Mais fondamentalement, quand on regarde, ça tourne beaucoup autour des mesures de conciliation vie personnelle, professionnelle, d'aménagement qui permettent justement un meilleur bien-être dans les organisations. Donc oui, je pense que pour les... Bien, évidemment, nous, quand on fait de la formation à distance, évidemment, c'est un des aspects, la conciliation qui ressort, là. Mais je pense que tous les établissements peuvent mettre ça de l'avant. Il y avait une autre, puis peut-être ici... Bon, comme vous avez le micro, allez-y, puis on l'enverra derrière par la suite et ici ensuite.
Alors, bonjour, je suis Elisabeth Doiron-Gascon. Je suis travailleuse sociale et consultante réglementaire de migration pour les étudiants étrangers à l'INRS, donc Institut national de recherche scientifique, donc des étudiants à la maîtrise et au doctorat, en effet sur plusieurs campus. Donc, un bon coup de l'INRS, c'est du soutien financier parental. Donc, nos étudiants à la maîtrise et au doctorat, pour la plupart, sont boursiers. Donc, si l'un d'entre eux devient parent durant son parcours, donc l'université a un budget pour assurer une continuité de ses bourses, un peu sous le régime du RQAP, mais au niveau des bourses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à l'INRS, qui est, à ma connaissance, la seule université qui a ce programme-là. J'avais aussi peut-être des commentaires parce que nous, deux tiers de nos étudiants sont étrangers à la maîtrise et au doctorat. Dans beaucoup d'universités, c'est le cas au niveau des études supérieures. Et là, je mets mon chapeau consultante réglementaire de migration. Je pense qu'il y a beaucoup d'approche qu'il va falloir faire aussi au niveau du gouvernement parce que les étudiants ayant des permis d'études ne peuvent pas prendre plus de 150 jours d'absence continue de leurs études. Donc, les mères, disons, je parlais des mères, des étudiantes au doctorat qui sont enceintes ne peuvent pas prendre plus de 150 jours d'absence continue au niveau de leur permis d'études, ce qui est à peu près une session. Donc, c'est ça la réalité. Donc, on a aussi des systèmes qui doivent cohabiter. Donc, le système d'immigration IRCC, au niveau du fédéral, au niveau du provincial, on a nos règlements des études, on a toutes nos... c'est la directive de soutien financier parental. Donc, on a toutes sortes de systèmes qui, parfois, leurs règles et leurs politiques rentrent en confrontation les uns avec les autres. Donc, on a écrit une lettre à IRCC, donc, pour les sensibiliser à ce fait-là, que pour beaucoup de nos étudiants-parents, qui deviennent parents au cours de leurs études, Ben c'est ça, c'est que ça compromet des droits certains qui pourtant sont quand même légiférés d'autre part. Fait que je voulais juste attirer, nous c'est une réalité qui nous confronte beaucoup puis qui est difficile pour nos étudiants. Puis on parlait du manque de services de garde, etc. On est dans des laboratoires de recherche aussi lourds, donc c'est pas évident de concilier toutes ces identités là à la fois.
Vous avez l'impression que vos étudiants travailleurs les connaissent?
Non, pas du tout.
C'est ça, par rapport, je fais un petit coq à l'âne, ou en tout cas, clin d'œil. C'est que nous, dans le fond, tout ce qui est en lien avec la loi des 14 ans et moins, c'est quand même plein de petites exceptions. Même chose pour les étudiants travailleurs qui issus d'immigration qui ont des lois. Là. C'est quand même compliqué, là, tout. Fait que nous, on fait des efforts de vulgarisation, des fiches synthèses, puis on fait des efforts de sensibilisation parce que sont durs à ancrer. Fait que quand on parle de protéger ses propres droits en tant que jeune, c'est aussi un clou à cogner peut-être. Là.
C'est parce que souvent, on oublie en fait la loi de l'immigration qui est une loi prédominante.
C'est ça.
C'est
pas facile.
Puis souvent, ça, dans nos universités, on y fait peu. On communique peu là-dessus, mais en fait, ces lois-là prédominent les autres lois. Donc, ils n'ont pas le choix, ces étudiants-là. Puis c'est comme si les gens dans nos universités ne connaissent pas la réalité au niveau des règles de permis qui, pourtant, sont prédominantes dans le cheminement académique. Puis c'est comme si même les professeurs sont comme étonnés. Mais pourtant, nos universités font beaucoup de recrutement à l'étranger pour faire venir ces personnes-là ici. Donc, c'est là que, des fois, il y a des enjeux, justement, au niveau de valeur, on les fait venir, mais à quel prix aussi dans leur propre cheminement?
Je crois vraiment, que du côté des services des ressources humaines, c'est des choses nouvelles parce qu'effectivement, il y a quelques décennies, il n'y avait pas ça. Il y a des personnes qui sont en emploi parfois depuis un certain temps. Je ne suis pas certaine non plus, d'ailleurs, que même dans les formations, on peut dire que les lois changent et évoluent. Donc, c'est même difficile, même un professeur qui aurait un cours en droit de l'immigration doit se mettre à jour très régulièrement, droit du travail, etc. Mais je pense que c'est un élément très important. Ça touche beaucoup, bien évidemment, le deuxième et troisième cycle où on a aussi une concentration de parents étudiants encore plus élevée par définition.
Oui, parce que c'est ça.
Ils sont plus âgés. Exactement. Tout à fait. Donc, merci pour cet apport-là. Il y avait quelqu'un d'autre derrière?
Ouais. Je vais juste dire, je suis vraiment contente que ce soit abordé parce que dans l'élaboration de la politique de l'UQAM, on avait une représentante des personnes parents étudiantes de l'international. Puis chaque chose qu'elle exprimait, c'était non, les lois de l'immigration, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Donc, il y a des choses qui sont bien au-delà de ce que peuvent faire les universités.
En fait, les règles ou décisions de chaque établissement, tout à fait. Comme tu dis,
mais les établissements ont un rôle à jouer justement là-dessus.
Ouais.
Donc, merci l'INRS.
Tenter de faire modifier. Oui, donc derrière, là.
Annie, au cégep Marie-Victorin, ma collègue Alima et moi, on a créé une politique sur la conciliation famille-travail-études au cégep. Puis là, on se demandait, en fait, j'avais entendu parler de la code P. Donc, je ne sais pas, de votre côté, nous, c'est un peu difficile à mettre en place dans le milieu parce que, je veux savoir qui l'administre, qui la met au dossier, puis qui ramasse les documents.
Oui. Dans le fond, nous, au Cégep du Montréal, ils vont voir leur API directement pour qu'ils remplissent un formulaire.
Vous utilisez des sigles, là, API, copie.
Aide pédagogique, pardon.
Juste parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas, là.
C'est l'habitude. Oui. Mais c'est ça, ils vont voir leur aide pédagogique qui, elle, leur fait remplir un formulaire. Puis par la suite, il va avoir une cote P à côté des listes de présence des classes. C'est ce qui permet aux profs de voir que c'est un parent. Mais c'est vraiment le parent qui doit aller voir son aide pédagogique. C'est pas automatique parce que le SRAM nous permet pas de quantifier les parents qui arrivent au cégep.
Comprends. Ma deuxième question...
allez-y, justement.
OK. J'ai une autre question. Dans le fond, en termes de budget dans vos organisations, c'est quoi qui est... ça représente quoi pour faire vivre le comité parents aux études ou comme ça? Parce que nous, on se freine un peu sur le recrutement. Puis je me dis, plus qu'on aurait de parents étudiants dans le groupe, plus on pourrait faire des choses. Mais on se limite parce qu'on n'a pas le manque de ressources budget puis de ressources de personnes. Fait que je veux savoir, c'était quoi un peu dans vos établissements?
Moi, je peux y aller, en fait. À l'Université Laval, on est deux conseillères aux étudiants à la direction des services aux étudiants qui aident dans l'application de la politique. Au-delà de ça, comme je l'ai dit tantôt, on a aussi une association étudiante-parents qui est très active. Eux, ils ont leur propre coordonnatrice aussi au sein de l'association étudiante. On peut comprendre pourquoi. Puis, cette personne-là, à l'association étudiante cette année, l'université a offert un soutien, on a donné un soutien financier de 25 000 $ à l'association. Par contre, je dois dire, ce soutien financier-là, il n'est pas récurrent. T'sais, on s'entend, à chaque année, ils doivent nous faire la demande. Fait que ça, c'est quelque chose que je pense que l'association étudiante aimerait bien voir pérenniser aussi dans les prochaines années. Mais c'est sûr que puis aussi, ça dépend toujours du budget de l'université à ce moment-là. C'est un peu plate que je dise ça comme ça ce matin, mais ils sont toujours un peu dépendants de ce que nous, on a comme budget aussi.
Oui, mais je pense qu'on a vu, justement, nous, en faisant la recension, la présence d'une ressource dédiée n'est pas toujours... Vraiment, il n'y en a pas partout, au contraire même. C'est plutôt comme quelque chose qui s'ajoute à d'autres activités, comme dans le secteur pédagogique ou autre. Et l'enjeu majeur, certainement, comme tout le monde qui a lu les journaux, a vu qu'il y a des coupures budgétaires, apparemment, et certains cégeps ont des enjeux de ne pas pouvoir construire un nouveau pavillon, pas pouvoir faire ceci, cela. Alors, je pense qu'il va falloir travailler sur les leviers et justement sur l'importance de ces éléments qui, finalement, coûtent souvent pas si cher, mais par contre, peuvent aider les étudiants à avoir une certaine persévérance et à réussir. Et je pense que si on met tout ça dans le contexte de rareté de main-d'œuvre au Québec, je pense que c'est vraiment... Bon, on le sait tous, et l'OCDE et plein d'organismes nous le disent, l'éducation, la formation, c'est un enjeu majeur pour l'avenir, là. Alors, quelle que soit l'économie du savoir et tout, c'est clair que le rôle de nos institutions est tout à fait majeur. Malheureusement, il y a des coupures budgétaires. Donc, ça va prendre des arguments un petit peu plus costauds, je pense. Je pense que vous vouliez intervenir.
Sinon, je peux répondre aussi pour l'UQAM, oui, comment ça se passe. Nous, on est financé par une CANO, une cotisation automatique non obligatoire, c'est-à-dire que quand sur les factures des personnes étudiantes, il y a plusieurs frais qui sont automatiquement facturés. Les personnes étudiantes ont le droit de demander à se les faire rembourser. Donc, chaque année, il faut qu'on gère les demandes de remboursement, qu'on s'occupe de rembourser ça aux gens qui disent « Ah, oh, mais moi, je ne suis pas parent, donc je n'en ai pas besoin. Mm-hmm. » Mais ça fait qu'on a quand même un bon budget. Le problème, c'est que le jour où on veut l'augmenter, c'est sur les épaules des personnes étudiantes. Mm-hmm. Ça fait partie des enjeux qui font qu'on a quand même une bonne masse salariale. Et c'est un défi, les ressources humaines en ce moment. Donc, c'est quand même... C'est un gros poids. Et le fait qu'on paye un loyer pour notre halte-garderie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à discuter dans la question des budgets en fonction de qu'est-ce qu'on fait reposer sur les comités de parents et qu'est-ce qui est pris en charge par l'institution.
Mm. Oui, je crois que selon les établissements, c'est très variable. Moi, je me souviens effectivement de la facture universitaire. Moi, c'est l'Université de Montréal où était ma fille. Puis je me souviens, il y avait là aussi, justement, pour le parent étudiant. Bon, compte tenu de mon domaine, je me disais, c'est bien. Mais je suis certaine qu'il y a d'autres. Apparemment, il y avait souvent des étudiants qui allaient puis qui disaient, bon, le journal étudiant, je participe pas. Les parents, c'est pas moi. Donc, je comprends que c'est, un budget qui est aléatoire.
Mais si vous voulez plus de détails, Annie, notre cordo est en plein dans les prévisions budgétaires. Donc, elle a tout dans la tête.
Allez-y.
Je m'appelle Gisèle Brasil, je suis travailleuse sociale au Collège de Maisonneuve, donc je suis aussi avec ma collègue Nancy aujourd'hui. Je suis très contente. Je veux saluer votre travail. Je suis en plein dedans dans l'implantation d'un projet. Je suis engagée au Cégep. J'étais engagée, entre autres, pour mettre en place un projet parent aux études. Je trouve ça très difficile. Okay? Mm-hmm. Puis là, je suis dans une période où je suis dans l'ombre, puis que je m'ai fait beaucoup renvoyer l'idée de « mais sont où les données? Ah. Sont où ses parents? Sont où les données probantes? Mais qu'est-ce qu'on demande de la souplesse pédagogique? C'est quoi? » Mais là, tu sais, c'est un privilège. Puis je suis comme « non, non, non. » Mais tu sais... Donc là, j'essaie d'avoir des pratiques créatives. Mm-hmm. Donc, j'ai fait un peu, qu'est-ce que vous dites, là, tu sais, j'ai parti d'en bas vers les hauts, mais je continue toujours à me faire dire par l'institution, il n'y a pas assez de données, tu sais, comment on va faire évoluer ces projets-là. malgré que j'ai un fonds, j'ai un donneur privé qui me donne des fonds, malgré l'effet que on est là, puis que la demande elle est là. Donc c'est, j'entends que vous dites ça, mais je voulais un peu d'espoir là, de comment. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça prend un projet. Puis j'ai dit, ça n'a pas tombé dans une oreille. Donc, ça, je vais t'écrire un projet. Donc, je suis allée chercher des informations plus larges. Là. Okay, là, quand on parle de conciliation, travail et toute famille, c'est ça. Au Québec, c'est ça. À l'international, c'est ça. C'était pas suffisant.
Okay? Ouais.
Donc là, je suis comme, OK, mais encore. Donc là, j'ai fait des recrutements. J'ai écrit ailleurs. J'ai parlé à tout le monde. Je suis comme un peu... J'ai rendu vraiment un peu harcelante là, à mes collègues. Là, mais comment ça, je n'ai pas une table? T'sais, comment ça, je ne suis pas là? Comment ça, je ne suis pas dans ces kiosques? T'sais? Rappelle-toi. Puis là, ça marche. Tu vois, là, les groupes d'études de la persévérance m'appellent. Puis là, ils disent, il faut que tu sois là parce que je pense qu'il y a un lien. T'sais. Santé mentale, la même chose. T'sais, mais... Ma question pour vous, c'est comment sortir de l'ombre, t'sais? Comment trouver ses parents si, mettons, les SRAM, c'est pas obligatoire. Les SPEC, là, c'est comme un enfant. Bien, déjà, les étudiants au collégial, ça répond jamais. Imagine les parents qui n'ont pas de temps pour répondre à une quantité énorme de questions. J'ai fait une demande au RIPSO, la Maëve me l'avait répondu, t'sais? Donc là, j'étais comme, OK, il y a des choses qui se passent ailleurs. C'est ça. J'aurais aimé avoir un guide d'autodéfense. Puis là, aujourd'hui, là, j'ai pris des notes.
Oui, c'est ça, je voyais.
J'ai pris des notes, mais tu sais, c'est comment sortir de l'ombre?
Avant, je vais les laisser justement apporter les idées. Mais moi, je dirais, quand on a fait les premiers balados, en fait, les premières séries de balados...
J'ai tout écouté.
je pense que dans le dernier, il y a en fait des membres de certains établissements et en tout cas, du côté des entreprises comme des établissements, souvent ce qui fonctionne, c'est l'exemple de l'autre, compte tenu de ses résultats, comment ils ont fait. Ah ben eux, ils font ça. Ah ben nous, on va faire pareil même. Alors parce que, évidemment, les chiffres, comme tu dis, c'est vraiment important. Déjà, quand même, en soi, ça pourrait parler. Mais malgré tout, on peut se dire, oui, mais il y a d'autres priorités. Et là, par contre, un collègue qui est dans un autre établissement et qui amène un peu l'idée de comment pour eux ça a contribué. Et normalement, Cégep comme université, quand même, notre premier objectif, c'est quand même la réussite des étudiants. Donc, je pense que juste ça, normalement, ça devrait engager, mais je vais laisser les autres amener d'autres idées.
Moi, pour vrai, c'est super un peu banal ce que je veux dire, mais ça fonctionne, là, la nourriture. Dans les kiosques, du jus, des bonbons, des chips, ça attire l'attention. Puis malgré que ça soit pas nécessairement le parent étudiant qui va venir au kiosque, mais lui va pouvoir transmettre l'information. Puis il y a beaucoup de personnel ou de la communauté de cégep qui viennent s'informer. C'est comme ça que nous, on a été capable d'approcher parce que c'est vraiment difficile étant donné que leur horaire, ils peuvent pas être présents. Puis aussi de considérer peut-être les congés fériés communs. Les semaines de relâche, faire des activités à ces moments-là, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont plus de temps. C'est beaucoup plus difficile d'aller les rechercher pendant la semaine de l'école, surtout que les horaires sont vraiment différents. Fait que nourriture, jus, c'est la clé.
Le B.A.B.A., l'alimentation.
Ouais. Tu sais, avez-vous un visuel? Avez-vous un dépliant, genre parents aux études?
Oui, nous, on a une affiche vraiment colorée là, qui attire l'œil, qui parle vraiment de la politique, d'être visible le plus possible. Tu sais, on est allé porter aussi les affiches dans chaque département pour que ça soit visible pour le personnel ainsi que les étudiants. Des dépliants, de faire des kiosques le plus régulièrement possible, que ça soit attrayant. Moi, je suis en loisir, fait que j'inclus toujours un peu des activités, comme on joue au tic-tac-toe, fait qu'en même temps, moi, ça me permet de les informer puis de les garder à mon kiosque. Fait que vraiment d'aller dans cet aspect-là, là, ce que je pourrais conseiller.
Un peu dans la même veine, nous, on a des macarons parents aux études. Il y a toujours des choses qui pourraient être plus faites, mais on essaye. Puis la visibilité des enfants dans les couloirs aussi. On amène les enfants, on les montre, on les... ils sont là, ils prennent la place, ils existent. Mais sinon, on a un peu souvent l'impression qu'il faut réinventer la roue quand on arrive dans ces situations-là. On nous parle comme s'il n'y avait jamais eu d'études, jamais eu de données, jamais de travail de fait, alors qu'il y a plein d'études qui ont été faites sur la réalité de... l'Institut de recherche en études féministes de l'UQAM a fait une étude. Nous, au CSPE, on a produit un sondage sur la réalité qu'on a à l'UQAM. Il y a un travail énorme qui a été fait au sein de la coalition pour la conciliation famille-travail-études. On a Sylvie qui est ici pour la représenter. Il y a une coalition qui s'est posée des questions là-dessus et qui a produit des revendications, puis qui a bien analysé les besoins et la réalité. Donc, il y a des choses sur lesquelles s'appuyer qui existent. Il faut se partager les ressources entre nous, c'est sûr.
Je vais t'écrire.
Peut-être un petit plus. Là, oui. J'ai l'air de plugger mon affaire, mais je continue toujours. .com. Là.
Le micro.
Je t'en ai.
Oui, mais c'est parce que ça va aider d'autres personnes à avoir accès à l'information.
Je sais, mais oui, merci. Merci beaucoup de nous ramener à l'ordre. Dans le fond, jeconcilie.com, nous, on le fait en tant qu'IOS en plein événement, mais j'ai oublié de mentionner tout à l'heure qu'il y a aussi une section de questions conditionnelles si tu as des enfants à charge. Fait que, bref, ça se rentre bien dans un kiosque là, en complémentarité, puis ça, ça appartient à tout le monde, jeconcilie. Donc, vous pouvez aussi, mettons, si vous avez des parents, ou des gens qui viennent à votre kiosque pour d'autres raisons. T'sais, utilisez le moment pour envoyer tous nos messages, puisqu'ils se ressemblent, les messages. Mm-hmm. Puis si tu encourages le parent étudiant devant toi, whatever, à remplir ça, bien, il y a déjà, ça te permet peut-être aussi d'échanger sur certaines choses. Donc, comme on le disait tout à l'heure, nous, ce qu'on veut, c'est que les milieux. Le milieu, pour moi, c'est vous, entre autres. Ça puisse vous outiller. Ça prend un petit 10 minutes à remplir, puis ça crée un dialogue aussi, puis ça peut permettre de créer des liens avec ces gens-là de manière ludique. Ça se passe en 10 minutes. Là. 30 questions, 10 minutes, un bilan sur ta situation. Puis ça peut peut-être aider dans les kiosques. C'est très tout petit dans tout ce qu'on a dit, mais ça peut être un truc qui peut valoriser.
Oui. Bien, j'apporterai un point de vue différent, en fait, parce que je crois sentir qu'il y a peut-être de la résistance à l'interne. Là. Puis en effet, en ce moment, les données probantes, il n'y en a pas tant. Au niveau politique, il y a moyen de s'appuyer aussi sur les deux merveilleux plans du ministère, le PARES et le PASME. On est régi par ces plans-là. Donc, pour soutenir la persévérance, la réussite, la santé mentale de nos étudiants, ce sont des actions fondamentales. Donc, souvent, moi, c'est l'angle d'approche que je vais avoir lorsque je m'adresse à des professeurs, des chargés de cours, des cohortes. Je leur parle du PARES, du PASME, parce que c'est notre dénominateur commun en ce moment. Donc, en ce moment, c'est ça le guide.
Je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu dis, parce que la dernière rencontre auquel on a pu avancer, c'est parce que j'ai dit exactement ça. J'ai dit, si nous, on est un établissement qui prône, tu sais, pour le bien-être des étudiants, mm-hmm. bien, on est plein dedans. Mm. Tu sais, c'est comme, on est vraiment à l'intérieur. Puis j'ai dit, voilà, là, c'est même écrit.
Mmh. Les données, elles peuvent être issues de recherche puis de comptabilité, mais vous avez des données pratiques, vous êtes des praticiens, vous êtes en observation 35 heures semaine. Donc ça aussi, vos gestionnaires doivent le comprendre que vos observations, ce qu'on échange aujourd'hui, c'est aussi riche qu'une étude aussi. Là, c'est comme une complémentarité d'une vision. Fait qu'il faut avoir confiance en nous puis à notre pratique.
Tout à fait, parce qu'effectivement, on a des chiffres, mais je pense que le discours, les réalités, l'appréciation des étudiants face à certains services, c'est des choses qui parlent. En tout cas, moi, d'ailleurs, quand on voit les étudiantes, notamment, je veux dire, parce que c'est quand même beaucoup des femmes qui ont des enjeux de conciliation très forts, et lorsqu'elles sont diplômées, le plaisir qu'elles ont, quand on les voit arriver en plus avec les enfants qui sont fiers de maman, même parfois de parents âgés, la fille n'a pas pu continuer ses études, elle a eu un enfant, mais sa mère ou son père sont là, ils ont les larmes aux yeux. Je pense que là, c'est vraiment le cadeau, et je pense que c'est des éléments qui peuvent convaincre à la fois les enseignants comme les gestionnaires et autres. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour... Ah, je pensais que... Oui, vas-y, désolée, je t'avais vue, puis après ça, je pensais que c'était avec elle. Non, c'est pas grave.
Je vais faire du pouce sur Martine, ce que tu avais dit. Nous, ce qui nous a aidé à convaincre notre administration, c'est premièrement Patricia, Cégep Dieu Montréal, intervenante. Bonjour, je prends 3 secondes. Trop de choses à dire. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est justement dans les DALAX, on parle d'inclusion EDI, c'est très, très, très en vogue. Là. Nous, on en parle dans une perspective intersectionnelle, comme Camilla l'a bien expliqué, mais de ramener les autres valeurs, les autres politiques, de parler au Cégep Parador, on a plusieurs volets aussi. On a un volet accessibilité universelle. Parents aux études, ça rentre dans accessibilité universelle. Les parents aux études sont partout. Fait qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on essaie de l'apporter. On a un volet réduction des risques aussi. Pourquoi pas en parler pendant ce temps-là? On peut rejoindre du monde partout, n'importe quand. Tout le monde, t'sais. Donc, c'est une chose qu'on essaie de faire. Puis de convaincre nos administrations, c'était vraiment de dire, mais on veut rejoindre tout le monde. on se dit ouvert d'esprit, mais allons-y dans ce sens-là. Allons recenser, comme qui était nommé par Annie tantôt, pour le recrutement aussi, ça peut être bienveillant, c'est valorisant. Là. Fait que c'est un peu ça que je voulais juste dire vite, vite.
Mais c'est très bien que vous ayez encore des choses à dire, parce qu'en fait, on va continuer cet après-midi.